Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission aujourd'hui exceptionnelle puisque nous allons parler de 6 films. Il n'y aura ni interview ni blind test, et seulement des chroniques. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors pour toi, c'est 2 films.
Oui, donc c'est le nouveau film d'Amaguchi, Contes du hasard et autres fantaisies, et puis un film uruguayen, Employé patron.
Quant à moi, je vais vous parler de 2 films qui traitent du monde politique, c'est Le Monde d'hier et puis En même temps de Kervern et Delépine. Guillaume nous parlera des Bad Guys, film d'animation, et puis de Notre-Dame brûle, le gros morceau de Jean-Jacques Hano. Quant à Marine, elle a vu le dernier film de Paco Plaza, Abuela, et puis nous allons commencer avec Inexorable, Calvaire, Vignane, Adoration, Fabrice Duvels creuse son sillon dans le cinéma français. On parle donc de son nouveau film avec Benoît Poulvorde.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquilliseurs sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail?
Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça. On écrit d'abord parce que c'est vital.
Marcel, viens voir. Présentez Gloria.
Marcel Bellemare est un écrivain à succès qui a connu la gloire avec son premier livre, Inexorable, édité par la famille de celle qui est ensuite devenue sa femme. Ils viennent s'installer dans le château familial en pleine forêt des Ardennes, espérant que Marcel puisse retrouver l'inspiration, car il n'a plus rien écrit depuis de nombreuses années. Surgit une étrange Gloria, jeune fille qui débarque en ville sans que l'on connaisse son passé et qui se lie d'amitié avec la fille de Marcel. Mais peu à peu, Gloria s'immisce dans le château, dans la famille et dans la tête de Marcel.
Tu crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite?
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Pourquoi vous m'avez lu?
Surtout Inexorable.
Ouais, t'es trop belle.
C'est la deuxième collaboration entre Benoît Poulvorde et Fabrice Duvels, après le tournage de Adoration, qui s'était d'ailleurs apparemment très mal passé. En même temps, le réalisateur belge semble aimer les défis, puisqu'il a déjà dirigé Joestar dans Colt 45. Une chose est sûre, le cinéaste et le comédien se sont bien trouvés, et leur osmose est évidente, tant Poulvorde incarne ici l'un de ses rôles les plus complexes et les plus passionnants. Autour de lui, Mélanie Douté en épouse qui doute, justement, et Alba Gaia Bellucci en jeune fille trouble et troublante forment un casting parfait dans un thriller à la forme presque classique qui étonne un peu venant de Duvels.
Je te sens pas heureux.
Ni heureux ni malheureux.
Pour moi, la mise en scène est une valse à 3, explique le metteur en scène pour justifier son étroite collaboration avec son chef opérateur Manuel Dacos, qui réalise un très beau travail de lumière gravé sur pellicule, inspiré entre autres du Giallo, même si les fulgurances formelles se font assez rares. Plutôt que d'explorer la forêt comme dans Adoration, le cinéaste fait ici se jouer l'intrigue entre les murs d'un château dont les étages sont reliés par un escalier qui menace de s'effondrer à tout moment, un peu comme le fragile équilibre de la vie rangée de notre protagoniste. On retrouve donc les codes du home invasion, mais étirés avec une certaine poésie, une certaine lenteur. Malheureusement, le scénario évoque un peu trop les thrillers érotiques des années 90. Ces thrillers qui étaient toujours plus ou moins misogynes, pas très fins, souvent à la lisière du ridicule. Malheureusement, car en 2022, on n'a plus vraiment envie de voir ces histoires de méchantes femmes manipulatrices qui viennent tenter de ruiner la vie d'honnêtes pères de famille. Si la mise en scène du film est irréprochable, l'intrigue est cousue de fil blanc et nous emmène inexorablement vers une fin assez convenue.
Inexorable de Fabrice Duvels est en salle depuis le 6 avril. Jean-Jacques Hano reconstitue les événements qui ont conduit à l'embrasement de Notre-Dame. Guillaume voulait absolument en parler de Notre-Dame brûle.
Et maintenant, Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va !
Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer.
Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué.
Feu de toiture ! Poursuivons, reconnaissance !
Ça veut dire désastre annoncé.
Quel plaisir tiré d'un film comme Notre-Dame brûle ? À vrai dire, il est d'abord difficile de se poser la question, tant la réponse semble être une évidence. Le titre annonce la couleur, mais aussi le goût, celui de l'épouvantable fin d'après-midi du 15 avril 2019, où le monde vit l'une des plus belles merveilles issues de l'esprit humain et la fière représentante de la grandeur culturelle et spirituelle de la France s'embraser. Pourquoi alors faire glisser le travail de recueillement et de reconstruction dans l'escarcelle du film à grand spectacle ? Recruter Jean-Jacques Haneau fut une idée pertinente à plus d'un titre. D'abord parce qu'il fut, fidèle à son habitude de repousser les limites de son art, le tout premier à signer un film de fiction en IMAX avec Guillaumet, Les ailes du courage. Aucun autre format ne pouvait être envisageable pour saisir la majesté de la cathédrale, même en difficulté, et l'ampleur de la tragédie qui l'a frappé. Le plus grand écran est idéal pour saisir la plus compliquée des tâches et traduire le chemin de croix parcouru par les soldats du feu dans l'ombre de ces minuscules recoins. Ensuite, parce qu'il a eu une idée d'écriture et de mise en scène très forte. Il y a un réalisme hérité des docufictions de Peter Watkins, comme dans La Bombe, qui colle le décompte très réaliste et oppressif des événements à la peau des spectateurs. Mais plus encore, au lieu de développer des intrigues humaines et destinées personnelles qui n'auraient été que secondaires et donc superficielles, il laisse l'eau de l'affiche à sa star internationale, Notre-Dame elle-même.
Si on peut monter avec quelques garrots, je crois qu'on peut y arriver, mon général.
Avec mes hommes, on se porte volontaire.
Supplémentaire et du renfort, il n'y aura pas de renfort.
Loin de la structure américaine classique du film choral, comme le chef-d'œuvre du genre La Tour Infernale, ou d'autres représentants moins illustres appuyant sur le pathos, dans lequel s'était par exemple fourvoyé Oliver Stone dans World Trade Center, Haneau permet, au lieu assiégé par la destruction, être le seul garant de l'émotion du film. Contrairement à la tour de La Tour Infernale, Notre-Dame est la victime à sauver. C'est assez unique dans l'histoire du cinéma. Pensez que même des œuvres donnant le nom d'une localité au long métrage comme Alamo ou Manhattan ne s'y sont pas risquées, et c'est d'une redoutable efficacité. En braquant ses projecteurs sur les pierres, et uniquement les pierres, Haneau a su rendre le plus bel hommage qui soit à cette figure qui n'avait pas besoin de faire valoir humain et arrive à nous faire trembler pour de l'inanimé tout en sachant que nous connaissons l'issue du combat cruel. Il a réussi à donner corps à quelque chose qui n'est pas fait de chair et de sang mais qui n'en est pas moins un emblème vivant pour beaucoup de gens. S'il avait été encore parmi nous, Abel Gance aurait sûrement eu la même idée lyrique. Alors, quel plaisir tirer d'un film comme Notre-Dame brûle quand l'écriture même du titre nous pince le cœur ? Il n'y en a pas beaucoup, car les larmes versées il y a 3 ans reviennent invariablement devant l'injustice provoquée par une somme ahurissante de manquements ayant causé cette catastrophe qui touche bien au-delà du cercle des croyants. Mais il y a quand même le spectaculaire dernier pari en date de l'un de nos plus grands cinéastes qui, à bientôt 80 ans, est toujours aussi jeune et pertinent dans l'exercice de son art. Et à son tour et à sa manière, il a su rendre concrète l'âme immortelle de Notre-Dame, fût-ce à travers la page la plus angoissante de son histoire.
Notre-Dame brûle est en salle depuis le 29 mars. Un petit patron agricole recrute un jeune homme de 18 ans qui a besoin d'argent en Amérique du Sud. C'est employé patron de Manuel Nieto Zas.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Le titre français de ce film uruguayen, employé patron avec un slash entre les deux, n'augure rien de très bon en fait. Cela évoque un peu une réunion syndicaliste organisée par la CGT ou au mieux un documentaire réalisé par un disciple de Ruffin servant de prétexte à une soirée de débat. Bref, la peur d'assister à un pur film assujé avec pour seul effet de mise en scène caméra portée à l'épaule m'a un peu échaudé en amont. Et surprise, employé patron est un vrai film de cinéma tourné en scope avec un scénario moins didactique que prévu qui fait mine de glisser sur un terrain social pour mieux s'imprégner des lieux, observer avec beaucoup de justesse des comportements humains prisonniers certes de leur statut de classe, mais plus mouvant que prévu. Le récit alors peine un peu à démarrer et à afficher ses enjeux et paradoxalement, c'est ce qui en fait son charme et son originalité. Des séquences étranges s'enchaînent alors sans réelle explication, le film se donne à voir et dévoile progressivement ses coutures narratives. Donc Rodrigo, un petit patron agricole, tente de concilier la vie personnelle et travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute donc un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit. Alors progressivement, on se rend compte que Rodrigo et sa femme vivent confortablement dans une grande villa, donnée importante qui n'est pas affichée d'emblée, comme si le réalisateur se refusait à imposer des déterminismes sociaux. Alors, il n'est pas question d'opposition entre employés et patrons, ni de fusion, mais de rapprochement lié à un drame que nous ne dévoilerons pas, de cette frontière poreuse entre deux hommes que leur statut respectif empêche totalement de se rapprocher. Ce drame rural qui emprunte au western, par cette importance d'ailleurs accordée aux chevaux, est constamment en mouvement, dans une instabilité permanente entre apaisement et angoisse, complexité et simplicité. À plusieurs reprises, les gestes des personnages interpellent, la bienveillance pouvant se transformer en un seul plan, en sourde violence. On ne sait pas toujours ce que Manolo Nieto, le réalisateur, veut nous raconter jusqu'à cet épilogue ambivalent que chacun interprétera à sa façon. Alors parfois confus dans son propos et peut-être volontairement confus, ce qui est à la fois une qualité et un défaut, employé patron mérite d'être vu. Alors déjà pour la prestation magnétique de Nahuel Pérez Biscayart, alors aperçu dans 120 battements de cœur et Au revoir là-haut, et aussi pour la fluidité d'une mise en scène aérienne qui évoque en très mineur le style parfois de Malick.
Employé slash patron donc de Manuel Nieto Zas est en salle depuis le 6 avril. Allez, on parle maintenant de deux films qui parlent du monde politique, parce qu'on est en période électorale, ça ne vous aura pas échappé. C'est le monde d'hier et en même temps.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Nous avions déjà eu Les promesses de Thomas Kruithof, fin janvier, film dans lequel Isabelle Huppert incarne la maire d'une ville de Seine-Saint-Denis. Depuis le 29 mars, nous avons eu Le monde d'hier de Diastem, dans lequel Léa Drucker incarne une présidente de la République. Et puis, nous avons, à compter du 6 avril, en même temps, dernier film de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui présente deux mères que tout oppose, collées l'un à l'autre au sens strict. Un film qui sort à 4 jours seulement du premier tour. Alors l'année électorale a donc boosté le cinéma avec des films bien différents. Alors parlons des deux derniers à être sortis en salle et commençons par celui qui voudrait être le plus réaliste, soit Le Monde d'hier, en salle depuis le 29 mars. Alors c'est un film qui peut diviser. De quoi s'agit-il ? Elisabeth de Rincy, Léa Drucker impeccable, présidente de la République, a choisi de se retirée de la vie politique. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, elle apprend par son secrétaire général, Franck L'Herbier, Denis Podalydès, le si impeccable, qu'un scandale venant de la Russie va éclabousser son successeur désigné, un candidat viriliste qui s'est compromis dans une affaire de corruption. Et puis donc, cela va donner la victoire au candidat d'extrême droite. Alors ces deux-là, qui se connaissent depuis 20 ans, ont 3 jours pour décider quoi faire. Alors soit étouffer l'affaire, soit en créer une autre plus grosse qui éclabousse l'autre camp, soit gagner du temps et à ce moment-là décider pour la présidente de se faire réélire.
Pas de bonnes nouvelles, madame la présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout.
C'est-à-dire ?
Willem est en train de creuser l'écart, Elisabeth.
Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp. Nous devons... Ce pays restera dirigé par un républicain et c'est le plus important.
Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et s'est fait piéger comme un bleu. Willem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France ? Il ne nous reste que 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens ?
C'est devenu dingue.
La mise en scène est exigeante et le dispositif mis en place par le réalisateur est un peu sec et très visible. Il a fait le choix d'un presque huis clos, comme si nous étions au théâtre. Nous passons ainsi les 3/4 du temps dans ce qui nous semble être le palais de l'Élysée. On y voit la présidente, son secrétaire général, le premier ministre et quelques autres qui vont et viennent au milieu du personnel. Si Diastème cherche le réalisme dans les enjeux, soit l'arrivée au pouvoir d'un candidat d'extrême droite, une affaire montée depuis la Russie, et puis les coups bas à l'intérieur même des partis politiques, il fait aussi en sorte de nous montrer la politique française comme une tragédie antique. Alors on ne s'arrête pas au dehors des choses, soit l'enjeu électoral et cette menace de l'international fasciste. Diastem fait intervenir d'autres ingrédients, la maladie, la relation contrariée entre une mère présidente et sa fille, et puis une histoire d'amour qui n'a jamais eu ce nom entre deux êtres qui se connaissent trop sans se quitter durement avec éclat. Alors comme ce n'est pas le premier film qu'on voit sur ce monde politique, on voit bien que Diastem nous fait toucher les relations compliquées qui se jouent au sein du pouvoir, mais on se dit pourtant que cela a moins de force que L'exercice de l'État de Pierre Scheuler. Sorti il y a 10 ans, le réalisateur avait fait le choix de se couper des ressorts dramatiques, plus exactement cela commençait comme ça, pour s'intéresser aux mécanismes du pouvoir plus qu'aux coulisses.
Une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tache dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait.
Ceux qui arriveront à dépasser l'aspect théâtral du film avec des personnages quelque peu figés pourront apprécier Le Monde d'hier et se concentrer sur le dénouement de cette tragédie qui peut mettre un peu les chocottes à quelques jours du premier tour. Passons au versant drôlatique de la politique avec en même temps de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Alors précisons déjà que le titre est un clin d'œil à Macron qui a utilisé cette expression pour concilier les idées de droite et de gauche. Alors nous sommes dans un coin d'Occitanie à la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire. Un maire de droite décomplexé, Didier Becquet, Jonathan Cohen, essaie de corrompre son confrère écologiste Pascal Molitor, interprété par Vincent Macaigne. Alors des verres au restaurant en passant par ceux pris dans un bar à hôtesse, eh bien les voilà victimes d'une jeune activiste féministe qui va les coller ensemble grâce à un pistolet chargé d'une colle superpuissante et les unir contre leur gré. L'assemblage paraît impensable. D'un côté, un maire homophobe, opportuniste, qui se considère dépositaire de l'extrême centre, et devant lui, un candidat écologiste. Alors c'est la honte, juste ce dernier. Et c'est vrai que ce n'est pas brillant comme alliance. Les deux hommes vont avoir toute la nuit et une partie du jour pour se décoller.
En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut.
Bonjour, cher ami.
Bonjour, connard.
Hein ? T'en as pas marre d'emmerder les Français ?
Alors, chers collègues ?
C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way.
On s'amusait plus avec l'ancien maire.
Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Non.
Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ?
Alors, ce qui est étrange, c'est que Gustave Carverne, que j'ai pu voir lors d'une projection publique, expliquait qu'il en avait assez avec son compère de faire des road movies. Alors, on pense à Altra ou à Mammouth, mais finalement, tout porte à croire qu'ils ne peuvent s'en empêcher car les deux hommes en voiture électrique, en trottinette, vont aller de maison en maison pour tenter de chercher de l'aide. Alors, on sera beaucoup en mouvement, mais si les personnages bougent, il en est tout autrement de la caméra. Fidèle à leur principe d'un cinéma de la simplicité, les deux réalisateurs privilégient toujours les plans fixes. On n'est distrait que par l'action et les dialogues. Et de ce côté-là, eh bien, on est servi, c'est-à-dire que le film est vraiment drôle, de bout en bout, sans qu'on perde non plus le fil du sujet, soit un regard caustique sur la politique. Comme toujours, c'est une constante de leur cinéma, Carverne et Delépine jouent avec l'image et le son hors champ, ils s'amusent aussi à placer l'image dans l'image. Une situation se déroule au premier plan, tandis qu'à l'image, eh bien, un autre événement se déroule. Ainsi, on voit les deux personnages, par exemple, appeler leur femme au téléphone, c'est pas le moment le plus palpitant du film, et ils sont en face d'une station-service. Et sur la droite, eh bien, on voit les tarifs du carburant qui change à toute allure sur le panneau d'affichage. Le tournage a eu lieu bien avant le conflit en Ukraine, donc c'est un peu prémonitoire. D'ailleurs, ce tournage, il n'a été achevé qu'en décembre dernier, donc il a vraiment fallu mettre les bouchées doubles pour qu'il sorte avant les élections. Quelques mots sur Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, ils sont tous les deux bons dans leur registre. Jonathan Cohen a cette capacité quand même à vite devenir agaçant, au contraire de Vincent Macaigne qui incarne la douceur, mais aussi une forme de sobriété. C'est précisément parce qu'il n'est pas sobre que les deux hommes vont être collés. Donc, deux films, deux ambiances. Si Le Monde d'hier, d'ailleurs, fait écho au livre homonyme de Stefan Zweig, qui s'achève au début de la Seconde Guerre et entrevoit l'accès de l'extrême droite au pouvoir, eh bien, la comédie de Carverne et Delépine, dans un autre exercice, est moins sentencieuse et plus digeste. Les deux films sont évidemment sur les écrans en ce moment. De Paco Plaza, on n'oublie pas Rec, mais c'était il y a longtemps déjà. Voici maintenant Abuela. Et c'est Marine qui nous en parle.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie.
Susanna est déjà vieille. Rendez-vous compte, elle a 25 ans. Et dans le milieu de la mode où elle évolue, obsédée par les mannequins de 14 ans, on lui répète à l'envi qu'elle approche de la retraite. Elle s'accroche cependant et poursuit sa carrière de mannequin à Paris jusqu'au moment où elle se retrouve obligée de revenir à Madrid pour s'occuper de sa grand-mère, son abuela, comme on dit en espagnol. Mais celle qui a tant pris soin d'elle enfant n'est désormais plus la même, plongée dans les affres de la sénilité. Peu à peu, sa présence dans l'appartement devient une menace pour la jeune femme qui ne sait plus différencier ce qui est réel ou non.
Comment va ta grand-mère ?
Je sais pas. Elle parle pas. Grand-mère, s'il te plaît.
Paco Plaza semble décidément en vouloir aux jeunes femmes et aimer les faire souffrir dans les appartements madrilènes. Dans Rec, une journaliste se retrouvait enfermée dans un immeuble plein de zombies, dont Véronica, cette dernière, était harcelée par des événements surnaturels. Et ici, une aspirante mannequin se retrouve bien punie de ses ambitions narcissiques en devenant la victime de sa sorcière de grand-mère. Si pour beaucoup, la vieillesse est un naufrage, chez Paco Plaza, la vieillesse est une forme de possession. L'espace intime, c'est-à-dire celui de la maison, s'avère enfermant, source d'angoisse, source de danger, mais le corps de l'héroïne devient quant à lui un second espace qui inquiète et qui enferme également de par les manifestations incontrôlées qu'il présente. C'est une excellente idée que de lier métier d'image et peur de la mort. Et ici, le monde de la mode est montré comme aussi dangereux que l'appartement hanté. On pense notamment au très bon Neon Demon. Et ses peurs sont incarnées avec talent par Almudena Amor, qui joue Susanna, une habituée des podiums qui trouve ici son premier rôle et fait à merveille face à Vera Valdez, qui, elle, fut une égérie de Chanel il y a bien des années de cela. Le film est captivant au sens propre du terme. Il nous enferme, nous rend captifs avec son héroïne. La mise en scène est tout à fait inventive, maîtrisée, notamment avec la multiplication des reflets et avec l'emploi de cette figure de grand-mère maternante qui peu à peu devient figure diabolique. Si le film n'est pas réellement effrayant, c'est qu'il refuse de jouer sur les ressorts éculés de l'horreur pour préférer être transgressif, dérangeant. Abuela ne vous fera pas sursauter, mais il vous laissera à coup sûr un souvenir véritablement dérangeant.
Abuela de Paco Plaza est en salle depuis le 6 avril. Nouvelle comédie d'aventure de DreamWorks réalisée par un animateur français. Qu'est-ce que ça donne, les bad guys ?
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
En apparence, vous êtes tous les cinq des voyous, des prédateurs, des sociopathes sans pitié.
Le dernier né des studios DreamWorks Animation a une particularité non négligeable, il est réalisé par un Français, Pierre Périfel. Il avait déjà travaillé en tant qu'animateur sur d'autres films du studio comme Kung Fu Panda, Monstre contre Alien ou encore Les 5 légendes de Peter Ramsey, ce dernier étant coproduit par Guillermo del Toro. Ce transfuge de l'école des Gobelins s'est fait repérer par la firme à l'enfant pêcheur au clair de lune et a gravi les échelons pendant 15 ans pour se voir confier le poste ultime, la responsabilité d'un premier long métrage. Pour ce faire, il adapte avec les Bad Guys une série de livres australiens pour enfants de Aaron Bablé. En constatant que les illustrations étaient à la base très simples, il s'est donc retroussé les manches pour trouver un style d'illustration animée non classique et pas dans la lignée des productions Disney, Pixar ou même DreamWorks classiques. Pari gagné, hein, car la grande réussite du film est justement ce style protéiforme, piochant tout autant dans les classiques de la BD française que dans les mangas les plus célèbres de ces 30 dernières années. Périphène casse enfin le tout 3D lisse de rigueur et se rapproche plus, toute proportion gardée, de l'épatant Spider-Man New Generation qui avait donné une claque au monde de l'animation en 2018.
Et voici la bande, Monsieur Serpent, l'expert perfide du perçage de coffres. Imagine Houdini mais sans les bras.
Jackpot!
Yes! Mademoiselle Tarantule, notre hacker personnel.
Où est-ce que tu as appris à faire ça?
Des tutos sur YouTube.
Monsieur Piranha, courageux et complètement taré.
Ça va mes potos?
Et Monsieur Requin. Magicien du déguisement. Son coup de maître, dérober la Joconde déguisée en Joconde. Et pour compléter la bande, il y a moi, le grand méchant loup. Peut-être que ce qu'on fait est mal, mais qu'est-ce qu'on le fait bien?
Arrêtez-les!
On se casse, les amis.
Ciao, les nazes!
Le film met en scène une bande d'animaux, tous de redoutables criminels de haut vol, qui forment un gang qui est craint dans tout le pays. Tous vont se rendre compte qu'ils arrivent au bout d'un cycle, et alors même qu'une offre qu'ils ne peuvent pas refuser se profile à l'horizon. Ils vont avoir l'occasion de voler un objet qui a intéressé tous les bandits du monde et qui se sont bien sûr tous cassés les dents dessus. Les bad guys ne peuvent pas résister à la tentation pour entériner une bonne fois pour toutes leur légende, et ce même si Monsieur Loup commence à ressentir des sentiments contraires. N'en a-t-il pas assez de faire le mal? Est-il forcément mauvais? Est-ce qu'une seconde chance peut s'offrir à cette bande de pieds nickelés au-delà du statut social induit par leur race? Autant de questions qui vont trouver réponse au fur et à mesure que se dessine un événement encore plus gros, celui de l'arrivée d'un nouveau gros méchant qui lui semble encore plus vicieux.
Si seulement on nous avait laissé une chance d'être autre chose que de petits escrocs.
Si vous voulez éviter la prison, vous devez devenir gentil.
On ne comprend pas forcément les règles de cet univers, hein. Des animaux qui parlent, côtoient des humains sans qu'il y ait vraiment d'explication ni de contexte, mais il est évident que l'on joue sur l'imagerie que véhiculent ces animaux. Le loup, le serpent, le requin, le piranha et l'araignée sont associés à quelque chose de négatif. Ils sont souvent, si ce n'est toujours, les méchants des histoires, ce que veut contrebalancer justement les bad guys. Le film joue sur le délit de faciès et le fait qu'ils doivent forcément être méchants par nature. Au-delà du sympathique message que l'on voit vite arriver, à savoir que le milieu, la race et l'apparence ne déterminent pas notre positionnement d'un côté ou de l'autre de la barrière de la loi ou de la moralité, il y a là une jolie inversion des valeurs dans le but de combattre des clichés tenaces. Les plus cinéphiles pensent bien évidemment à des cas comme celui des Dents de la Mer, parce que si le film de Steven Spielberg est un chef-d'œuvre incontesté et ne cherche jamais à établir autre chose qu'un grand divertissement basé sur un suspense implacable, on ne peut nier l'image négative qu'il a permis d'entretenir dans l'esprit des gens quant à la prétendue négativité des requins. Et lorsque l'on regarda le nombre effectif d'attaques mortelles de requins par an, ben absolument ridicule compte tenu de l'imaginaire collectif qui voit l'animal comme un terrible croque-mitaine assoiffé de sang, eh ben on comprend mieux l'amusante proposition du film. De l'aveu même de Pierre Périphel, les Bad Guys est très référencé et cela saute aux yeux dès les premières images. Le gang des Bad Guys est un décalque enfantin de celui qui répondait à un code couleur dans Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. De manière plus générale, on est ici dans le genre du film de casse allant de l'ours bar à la scène de la CIA de Mission Impossible ou encore à l'aspect détendu des braqueurs d'Ocean's Eleven. Cette coolitude est appuyée par une belle bande originale jazzy et soul qui ne manquera pas de faire plaisir aux parents venus accompagner leurs enfants. Alors voilà, sans rien révolutionner au genre, les Bad Guys arrivent mine de rien à être un bon divertissement, bien écrit et plutôt rondement mené, ce qui n'avait pas toujours été le cas chez DreamWorks depuis un petit moment.
Les Bad Guys est en salle depuis le 6 avril. Le cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi livre trois courtes histoires où les femmes sont omniprésentes. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Depuis la sortie de Senses, œuvre romanesque de 6 heures, Ryusuke Hamaguchi est devenu l'une des valeurs sûres du cinéma japonais, rencontrant un succès croissant et mérité en France. Après les excellents Asako 1 et 2, et surtout Drive My Car, le film de la consécration, celui que l'on surnomme le Romer japonais, alors par facilité à mon sens, parce que je trouve que ça n'a pas grand rapport, a fini par céder. Il rend hommage, avec Contes du hasard et autres fantaisies, aux Français, alors surtout par son titre, qui évoque donc les fameux contes des quatre saisons. Mais dès l'une des premières scènes du film, confession intime à l'intérieur d'une limousine, long plan séquence où la caméra reste fixe, c'est bien à Aung San Suu que l'on songe, lui-même considéré comme le Romer coréen. Mais à Aung San Suu qui aurait troqué le soju pour du thé, le sens de l'improvisation par la rigueur d'une écriture qui retombe toujours sur ses pattes et ne laisse rien dans l'ombre. Contrairement au film du coréen qui se délecte des atmosphères troubles et mystérieuses, laissant aux spectateurs la liberté d'interpréter les situations, Contes du hasard et autres fantaisies reposent au contraire sur une construction scénaristique exemplaire, mais qui manque peut-être parfois d'air ou d'ambiguïté. Mais passé cette remarque, car nul n'est parfait, le film d'Hamaguchi est une grande réussite. Il parvient à ressusciter un genre tombé en désuétude, le film à sketch, souvent d'ailleurs remplacé par le cinéma choral, permettant de fluidifier plusieurs récits s'imbriquant les uns dans les autres avec des interactions entre les personnages. Alors plus prosaïque, dans une veine marquée par la clarté, Hamaguchi ne cherche pas les pattes. Les trois segments proposés abordent une thématique similaire, la rencontre amoureuse suivie des déconvenues et des illusions liées à cette rencontre. Mais les histoires sont différentes les unes des autres, sans ce fil conducteur un peu convenu impliquant des personnages qui relieraient chaque récit. Dans le premier conte, La magie, Meiko, une jeune femme, découvre qu'une de ses meilleures amies a un nouvel amour dans sa vie. Dans le deuxième, La porte grande ouverte, Nao, une femme infidèle, est poussée par son très jeune amant de séduire et piéger un écrivain universitaire. Enfin, dans le dernier, encore une fois, Moka, quadra solitaire, croise dans un escalator une femme qu'elle pense être son premier amour de jeunesse. Alors je n'en dis pas plus car à chaque fois, un élément perturbateur vient enrayer la mécanique, créant des situations tour à tour insolites, drôles et bouleversantes. Presque, il y a à chaque fois une sorte de twist au milieu de chaque segment. Alors tel un novelliste dont on perçoit la grande influence de l'écrivain Haruki Murakami, Hamaguchi signe trois magnifiques portraits de femmes qui interrogent notre rapport à l'autre, le désir et les fantasmes de chacun. Sans crier gare, avec un sens du dialogue très aiguisé et une direction d'acteur exceptionnelle, le film glisse souvent de la comédie de mœurs, brillante et pétillante, sur le mensonge et les apparences, au drame déchirant sur le renoncement. Un renoncement lié à chaque fois à un échec qui plonge les personnages dans une grande mélancolie, même si le dernier sketch ouvre une voie vers une possible réparation, montrant deux personnages surmontant un quiproquo initial. Mais le plus beau moment du film se trouve dans le deuxième segment, lorsque Nao lit à haute voix un extrait très érotique du roman de l'écrivain en sa présence. Une intensité se dégage lors de cette séquence charnière, point de bascule pour la jeune femme. Finement ciselé et mis en scène avec une science pointilleuse du cadre, les contes du hasard et autres fantaisies confirment l'importance d'un cinéaste aussi à l'aise dans les récits fleuves, quand même plus de 6 heures pour Senses, que dans la concision d'un film à sketch, genre que je répète qui manque un peu. J'ai trouvé ça très très agréable d'en revoir.
Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi est en salle depuis le 6 avril.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, tu as déjà au moins un film.
Oui, un film indépendant américain, Sous l'aile des anges.
Et puis moi, je vous parlerai de la revanche des crevettes pailletées. Ce sera l'occasion d'entendre le réalisateur de cette comédie et une partie de l'équipe qu'on a rencontrée. À la semaine prochaine.